Les Évangiles écarlates de Clive Barker, lu par Clément Stupnicki. Un ami lui demanda alors « Qu'est-ce que l'écarlate ?» Et l'aveugle répondit que c'était comme le son d'une trompette. John Locke, Essai sur l'entendement humain. Prologue. Labor diabolus. Il souleva mes cheveux, il éventa mes joues comme une brise des prés au printemps, et tout en se mêlant à mes craintes, il me fit l'effet d'une bienvenue. Samuel Taylor Coleridge. La complainte du vieux marin. Chapitre 1er. Quand, après le long repos de la tombe, Joseph Ragoski s'exprima, sa voix n'avait rien de plaisant, son humeur non plus. « Regardez-vous » dit-il, scrutant les 5 magiciens qu'il avait tirés de son sommeil sans rêve. « Vous ressemblez à des spectres, tous autant que vous êtes !»«
Tu n'as pas si bonne mine non plus, Joe, » répondit Lily Safro. « Ton embaumeur a eu la main un peu lourde avec le rouge et le crayon de contour des yeux. »
D'un geste rageur, Ragoski leva le bras vers sa joue, afin d'essuyer une partie du maquillage utilisé pour masquer le teint blafard que sa mort violente lui avait laissé. On l'avait embaumé à la hâte, cela ne faisait aucun doute, avant de l'installer dans son compartiment du mausolée familial, dans un cimetière à la périphérie de Hambourg.
« J'espère que vous ne vous êtes pas donné tout ce mal simplement pour me lancer des piques !» répliqua-t-il, embrassant du regard le bazar qui jonchait le sol autour de lui. « Quand même, je suis impressionné !»
La pratique de la nécromancie exigeait un sens du détail confinant à l'obsession. Pour réveiller Ragoski, l'un des magiciens avait utilisé le rite Enkise, qui nécessitait des œufs de colombe d'une blancheur immaculée dans lequel il avait injecté le sang des premières règles d'une jeune fille. Ensuite, on cassait les œufs dans 11 bols en albâtre. Répartis autour du cadavre, chacun d'eux contenait d'autres ingrédients obscurs. La pureté était un élément essentiel du processus. Les oiseaux ne pouvaient pas être mouchetés, le sang devait être frais, et les 2709 chiffres inscrits à la craie noire qui commençaient sous le cercle des bols et tournaient en spirale vers l'intérieur jusqu'à l'endroit où gisait le corps du ressuscité devaient respecter un ordre bien précis, sans rature, interruption ou correction.
« C'est ton œuvre, Elisabeth, n'est-ce pas ?» demanda Ragoski.
Elisabeth Kotlov, la plus âgée des 5 magiciens, hocha la tête. Son visage, préservé par des sorts dont la complexité le disputait à l'instabilité, donnait tout de même l'impression qu'elle avait perdu l'appétit et le sommeil depuis des décennies.
« Oui, répondit-elle, nous avons besoin de ton aide, Joey. »
« Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé ainsi, et en général c'était pendant que tu baisais avec moi. Est-ce que je suis en train de me faire baiser ?»
Kotlov jeta un rapide coup d'œil à ses collègues. Lily Safro, Yasha Rayadat, Arnold Poltash et Théodore Felixson, qui eux non plus ne semblaient guère amusés par les insultes de Ragoski.
« Tu n'as rien perdu de ton amabilité, » répondit-elle. « Sur ce point, la mort ne t'a pas changé. »«
Vous n'allez pas recommencer !» s'emporta Poltash. « Ça a toujours été notre problème, depuis le début !»
Il secoua la tête.
« Que de temps gaspillé en rivalité inutile, alors que nous aurions pu travailler ensemble. Ça me donne envie de pleurer. »
« Pleure tout ton sol, » répliqua Théodore Felixson.
« Moi, je me battrai. »«
Oui, s'il te plaît, épargne-nous tes larmes, Arnold, » intervint Lily. Des 5 invocateurs, elle était la seule assise pour la bonne et simple raison qu'il lui manquait la jambe gauche.
« Nous aimerions tous pouvoir changer les choses. »« Lily, ma chérie, » l'interrompit Ragoski. « Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que tu n'es plus tout à fait la même. Qu'est-il arrivé à ta jambe ?»«
En fait, j'ai eu de la chance. Il a bien failli m'avoir, Joseph. »
« Il ? Personne ne l'a arrêté !»«
Nous sommes une espèce en voie de disparition, » intervint Poltash.
« L'extinction nous guette. »« Combien de membres du cercle sont encore en vie ?»
demanda Joseph d'une voix soudain anxieuse. Le silence s'installa, tandis que les 5 échangeaient des regards hésitants. Finalement, Kotlov prit la parole.
« Il ne reste que nous, » dit-elle, sans quitter les yeux d'un des bols en albâtre et son contenu taché de sang.
« Fou ! Seulement 5 !» « Non !»
Toute trace de sarcasme avait disparu de la voix et de l'attitude de Ragoski, qui semblait avoir oublié ses petits jeux mesquins. Même les couleurs vives de l'embaumeur ne purent modérer l'horreur qui s'affichait sur son visage.
« Depuis combien de temps je suis mort ?»«
3 ans, » répondit Kotlov.
« Vous me faites marcher. Comment est-ce possible? Le premier cercle comptait 271 membres à lui tout seul. »
« Oui, » confirma Ayadat. Et n'oublions pas ceux qui avaient choisi de ne pas nous rejoindre. Difficile de connaître le nombre de ces victimes hors des cercles. Des centaines, des milliers.
Et impossible de savoir ce qu'il leur a pris, ajouta Lily Safro.
Nous possédions une liste relativement complète, mais elle n'était pas exhaustive, précisa Poltage. Tout le monde a ses petits secrets, moi le premier.
Ah, si, c'est vrai, confirma Felixson.
5, répéta Ragoski, secouant la tête. Et vous n'avez pas été capable d'unir vos forces pour trouver un moyen de l'arrêter.
C'est pour cette raison que nous nous sommes donné tous mal pour te faire revenir, dit Yadat.
Crois-moi, aucun de nous n'a choisi cette solution de gaieté de cœur. Tu penses que nous n'avons pas essayé d'attraper ce salaud?
Putain, plutôt deux fois qu'une, mais ce démon est foutrement intelligent.
Et il devient de plus en plus malin avec le temps, conclut Kotlov.
D'une certaine façon, tu devrais te sentir flatté. Il s'attaqua à toi en premier parce qu'il avait pris ses renseignements. Il savait que toi seul étais capable de nous unir contre lui.
Et à ta mort, soupira Poltache, nous n'avons rien trouvé de mieux que de nous disputer et de chercher un bouc émissaire parmi nous. Pire que des gosses dans une cour de récréation. Il nous a éliminés, l'un après l'autre, parcourant le globe pour nous empêcher de deviner où il frapperait ensuite. Beaucoup des nôtres ont disparu sans que personne ne s'en aperçoive. Généralement, nous l'apprenions quelques mois plus tard, un an parfois. Par hasard, au moment d'entrer en contact avec quelqu'un, on découvrait que sa maison avait été vendue, réduite en cendres, ou simplement laissée à l'abandon. J'en ai moi-même fait l'expérience deux ou trois fois, chez Brander à Bali, ou chez Dr. Biganzoli à la périphérie de Rome. Aucun signe de pillage. Avec les rumeurs qui circulaient sur leur occupant, les gens du coin étaient bien trop effrayés pour mettre un pied à l'intérieur, même s'il était évident qu'il n'y avait plus personne.
« Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Ragoski.
Poltage sortit un paquet de cigarettes et en alluma une. Ses mains tremblaient. Kotlov dut l'aider pour stabiliser son briquet.
Tout ce qui avait la moindre valeur magique avait disparu. Les urtex de Brander, la collection d'apocryphes du Vatican de Biganzoli, jusqu'au plus mineur des opuscules blasphématoires. Les étagères des bibliothèques étaient nues. J'ai trouvé des traces de lutte chez Brander. Beaucoup de sang dans la cuisine.
« Est-il absolument nécessaire de revenir sur tout ça ?» l'interrompit Adat.
« Nous savons tous comment se terminent ces histoires. »
« Vous m'avez tiré d'une mort reposante et appréciée pour vous aider à sauver vos âmes, » lui rappela Ragoski. « Alors je crois que me communiquer l'ensemble des faits est vraiment la moindre des choses. Continue, Arnold. »
Le sang n'était pas récent. Il y en avait beaucoup, mais il avait séché de nombreux mois plus tôt.
« Et chez Biganzoli ?» demanda Ragoski.
« La maison de Biganzoli était encore hermétiquement close quand je suis passé. Volets fermés et portes bouclées, comme s'il était parti pour de longues vacances. Mais il était toujours à l'intérieur. » Je l'ai trouvé dans son bureau. Et elle...
Bon Dieu, Joseph! Il était suspendu au plafond par des chaînes avec des crochets enfoncés dans sa chair. On étouffait dans cette baraque. D'après moi, il était mort depuis au moins 6 mois. Son corps s'était ratatiné sous l'effet de cette chaleur. Autour de sa bouche, la chair s'était rétractée, ce qui lui donnait une expression terrible, comme s'il était mort en criant.
Ragoski étudia les visages réunis devant lui.
Bref, pendant que vous étiez en train de vous chamailler pour des broutilles, ce démon a mis fin aux vies et a pillé les esprits des magiciens les plus avertis de la planète.
Oui, ça résume assez bien la situation, dit Poltache.
Pourquoi? Quelles sont ses intentions? Avez-vous au moins découvert ça?
Les mêmes que les nôtres, probablement, répondit Felixson. Accumuler du pouvoir et le garder. Il ne s'est pas contenté de nous voler nos traités, nos manuscrits et nos grimoires. Il nous a dépouillés de tous nos habits de cérémonie, tous nos talismans, nos amulettes.
Chut! Dit soudain Ragoski. « Écoutez !»
Le silence s'installa parmi eux pendant un moment. Puis une cloche funèbre sonna doucement dans le lointain.
« Oh mon Dieu !» dit Lily. « Cette cloche, c'est lui. »
Le ressuscité éclata de rire.
« Il vous a trouvé !»
Chapitre 2. À l'exception de Ragoski, déjà décédé une fois, toute la compagnie réunit lâcha instantanément un flot de prières, protestations et supplications, chacune dans des langues différentes.
« Merci de m'avoir offert cette seconde vie, mes vieux amis, » dit Ragoski. « Peu de gens ont le plaisir de mourir deux fois, en particulier des mains du même bourreau. »
Il sortit de son cercueil, renversa d'un coup de pied le premier bol en albâtre, puis se mit à remonter le cercle nécromantique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les œufs cassés, le sang menstruel, ainsi que les autres ingrédients, chacun jouant un rôle vital dans le rite guisé, furent éparpillés sur le sol. L'un des bols roula sur son bord, zigzagant follement avant de heurter un mur du mausolée.
« C'est vraiment une réaction puérile, » dit Kotlov.
« Seigneur, » fit Poltache, « la cloche sonne de plus en plus fort. »
Nous avons oublié nos rivalités pour obtenir ton aide et nous protéger, cria Felixson. La capitulation ne peut pas être notre seule option, je refuse de l'accepter.
Vous vous êtes réconcilié trop tard, répliqua Ragoski,
piétinant les bols et pulvérisant les éclats.
Peut-être qu'à une cinquantaine, en partageant toutes vos connaissances, vous auriez eu une chance. Mais dans l'état actuel des choses, l'ennemi est supérieur en nombre.
Hein ? S'étonna Ayadat. Tu penses qu'il a des alliés ?
Mon Dieu ! Je ne sais pas s'il faut attribuer ça à la confusion due à la mort ou aux années écoulées, mais dans mon souvenir, vous n'étiez pourtant pas aussi stupide. Le démon a absorbé tant de connaissances qu'il n'a pas besoin de renfort. Il n'y a pas une incantation en ce monde qui puisse l'arrêter.
Je refuse de le croire. S'écria Felixson.
J'aurais sans nul doute prononcé les mêmes paroles désespérées 3 ans plus tôt. Mais c'était avant mon décès prématuré, frère Théodore.
Nous devrions nous séparer, proposa Yadat, partir pour des destinations complètement différentes. J'irai à Paris.
Tu ne m'écoutes pas, Yachar. C'est trop tard,
insista Ragoski.
Je suis la preuve qu'on ne peut pas lui échapper.
Tu as raison. Paris, c'est trop facile. Une contrée lointaine, alors.
Pendant que Yadat, en proie à la panique, dressait ses plans, Elisabeth Kotlov, apparemment résignée, prit le temps de parler avec Ragoski sur le ton de la conversation.
« On a dit que ton corps avait été retrouvé dans le temple de Fémestrion. Ce n'est pas le premier endroit où je t'aurais cherché, Joseph. C'est lui qui t'a attiré là-bas ?»
Ragoski s'arrêta et la regarda un moment avant de répondre.
« Non, je m'y cachais en fait, derrière l'hôtel, dans un réduit, sombre. Je pensais y être en sécurité. »
Et il t'a tout de même trouvé. Ragoski hocha la tête, tâchant de garder, sans succès, un ton désinvolte. Il poursuivit.
De quoi j'avais l'air ?
Je n'étais pas présente, mais d'après tout le monde, tu offrais un spectacle épouvantable. Il t'avait abandonné dans ta planque avec ses crochets encore plantés en toi.
Lui as-tu révélé où tu cachais tous tes manuscrits ? Demanda Poltache.
Avec un crochet dans le cul qui tirait sur mon estomac. Oui, Arnold, je lui ai tout dit. J'ai couiné comme un rat dans un piège, et ensuite, il m'a laissé sur place, avec cette chaîne qui m'étripait lentement pendant qu'il allait fouiller ma maison et rapporter tout ce que j'y avais dissimulé. À ce moment-là, je me rappelle l'avoir supplié de me tuer. Je lui ai livré des informations qu'il ne m'avait même pas demandées. Je ne voulais qu'une chose, la mort. Et quand j'ai enfin obtenu satisfaction, je n'ai jamais éprouvé une telle gratitude de toute ma vie. « Nom de Dieu !» hurla Felixson. « Regardez-vous en train d'écouter ces âneries. Nous avons rappelé ce fils de pute pour obtenir des réponses, pas pour entendre des horreurs. Tu veux des réponses ?»
lui lança sèchement Ragoski.
« En voilà. Prends une feuille de papier sur laquelle tu noteras où se trouvent tous les grimoires, opuscules et autres objets magiques que tu possèdes, jusqu'au dernier. Tout. Il t'arrachera ces informations tôt ou tard. Toi, Lily, tu détiens le seul exemplaire connu des cruautés de Sandrager, n'est-ce pas ?»«
Possible. »
« Bordel de merde !» s'emporta Poltache. « Il essaie de nous aider, Lily !»«
Oui, reconnut-elle. Je le garde dans un coffre enterré sous le cercueil de ma mère. »«
Note-le. L'adresse du cimetière. La position de la concession. Dessine un foutu plan si nécessaire. Si tu lui facilites la tâche, peut-être qu'il se montrera clément. »«
Je n'ai pas de papier !»
dit Yadat d'une voix soudain stridente, rendue enfantine par la peur.
« Que quelqu'un me donne une feuille !»«
Tiens, » fit Elisabeth, qui déchira une page d'un carnet d'adresse qu'elle avait tiré de sa poche. Poltache écrivait sur une enveloppe qu'il avait appuyée contre le mur en marbre du mausolée.
« Je ne vois pas en quoi ça l'empêchera de venir fouiller dans nos esprits, » dit-il, gribouillant frénétiquement. « Ce n'est pas le but, Arnold. C'est simplement un geste d'humilité. Une chose qu'aucun d'entre nous n'a eu l'occasion de pratiquer au cours de sa vie. Mais ça aura peut-être une influence sur la suite des événements. Je ne garantis rien. »«
Oh mon Dieu !» fit Yadat. « Je vois de la lumière !»
Les magiciens s'interrompirent pour regarder. Tout au fond du mausolée, une lueur bleue et froide filtrée par les fentes entre les blocs de marbre.
« Notre visiteur ne va plus tarder, » dit Ragoski. « Elisabeth, cher ami. »«
Joseph, » fit-elle, sans lever les yeux de son gribouillage frénétique.
« Libère-moi, s'il te plaît. »«
Une minute, laisse-moi finir. »«
Relâche-moi, bon sang. Je ne tiens pas à être là quand il viendra. Je ne veux plus jamais revoir cet horrible visage. »«
Patience, Joseph, » dit Poltache. « Nous ne faisons que suivre tes conseils. »
Qu'on me rende ma mort! Je ne veux pas avoir enduré ça encore une fois! Personne ne devrait y être forcé!
La lumière qui brillait de plus en plus fort derrière le mur s'accompagnait à présent d'un crissement. L'un des énormes blocs de marbre situés à hauteur d'homme se déboîtait lentement. Quand il eut avancé d'environ 25 cm, un deuxième en dessous et à gauche du premier se mit à bouger. Quelques secondes plus tard, un troisième, à droite et au-dessus du premier, s'anima également. les rayons bleus argentés qui avaient marqué le début de cette déconstruction s'infiltraient dès qu'une nouvelle fente le leur permettait. Rendu furieux par l'indifférence de ceux qui l'avaient ressuscité, Ragoski reprit la destruction des travaux nécromantiques de Kotlov là où il l'avait laissé. Il saisit les bols en albâtre et les lança avec violence contre le mur en mouvement. Puis, retirant la veste dans laquelle on l'avait enterré, il s'agenouilla et entreprit d'effacer les nombres que Kotlov avait écrits dans la spirale. Tout mort qu'il soit, des gouttes d'un liquide noir et épais perlaient sur son front, puis tombaient de son visage vers le sol. C'était un mélange de fluides d'embaumement et de vestiges de ses propres fluides putrides. Mais ses efforts pour inverser sa résurrection commencèrent à porter leurs fruits. Une torpeur bienvenue gagna progressivement ses doigts et ses orteils, avant de remonter dans ses membres. Il sentit un poids peser de plus en plus lourd derrière ses yeux et ses sinus, alors que le contenu à moitié liquéfié de son cerveau réagissait aux exigences de la pesanteur. Levant la tête, il vit les cinq magiciens en train de gratter frénétiquement, tels des étudiants soucieux de rendre leur copie dans les temps lors d'un examen particulièrement important. Bien sûr, dans le cas présent, un échec leur coûterait bien plus cher qu'une mauvaise note. Ragoski s'intéressa ensuite au mur où six blocs à présent poursuivaient leur progression. Le premier à avoir répondu à la pression exercée depuis l'autre côté finit par se dégager et choir sur le sol. Un rayon de lumière glaciale, auquel les poussières de ciment en suspension dans l'air donnèrent une certaine solidité, entra par la brèche et traversa le mausolée dans le sens de la longueur, jusqu'à toucher le mur d'en face. Le deuxième bloc ne tomba que quelques instants plus tard. Théodore Félixson se mit à prier à voix haute, alors qu'il écrivait toujours, entretenant savamment l'ambiguïté quant à la divinité à laquelle il s'adressait. « À toi le pouvoir, à toi le jugement, prends mon âme, Seigneur, façonne-la et utilise-la. Je suis faible, Seigneur, j'ai peur. Ce n'est pas d'un autre Seigneur dont nous avons besoin ici, » le coupa Élisabeth, « mais d'une déesse. » Et sur ces mots, elle entama sa propre prière. « Ô Netta, au sein de miel, moi ta fille je t'aiderai, pendant que Félixson continuait sur sa lancée. Sauve-moi, Seigneur, de la peur des ténèbres. Serre-moi fort contre ton cœur, Seigneur. » Et Adat interrompit ce concours de supplications par un beuglement que seul un homme de sa carrure imposante pouvait le pousser.
« Je n'ai jamais vu pareille hypocrisie de toute ma vie.
Depuis que je vous connais, vous n'avez eu tous les deux foi qu'en votre propre cupidité. Si le démon vous entend, il doit bien rire. »«
Vous avez tort, » dit une voix, issue du même endroit que la lumière froide.
Les mots, bien qu'anodins en eux-mêmes, semblèrent accélérer la capitulation du mur. Trois nouveaux blocs commencèrent à avancer en crissant, tandis que deux autres tombaient pour aller s'ajouter aux décombres qui s'accumulaient sur le sol du mausolée. Toujours invisible, celui qui appartenait à cette voix continua à s'adresser au magicien. Comparé à la sévérité glaciale du ton qu'il employait, la lumière crue paraissait tropicale.
« Je sens de la chair en putréfaction, » poursuivit le démon, « mais avec un parfum de réanimation. Quelqu'un s'est amusé à réveiller les morts. »
D'autres blocs basculèrent. La brèche aurait été assez grande pour permettre le passage d'un homme de bonne taille si les débris n'avaient pas occupé le tiers inférieur de l'espace libéré. Mais pour l'entité sur le point de faire son entrée, de tels problèmes étaient aisément résolus.
« Ovat porak, » dit-il.
L'ordre fut immédiatement exécuté. Les gravats attentifs s'écartèrent en une fraction de seconde. Chaque particule de ciment fut retirée de son passage, comme si l'air lui-même se purifiait pour lui. Une fois la voie libre, le cénobite se présenta aux six magiciens. Il était grand et ressemblait beaucoup au portrait qu'en dressaient les traités de démonologie qu'ils avaient tous parcourus au cours des derniers mois ou semaines, cherchant vainement un point faible à cette créature. Ils n'en avaient trouvé aucun, bien sûr, mais à présent qu'il leur paraissait en chair et en os, il dégageait nettement une certaine humanité, un héritage de l'homme qu'il avait été avant que son ordre ait accompli son monstrueux ouvrage sur son corps. Sa carnation était pratiquement blanche, sa tête chauve rituellement marquée par de profonds sillons verticaux et horizontaux, et à chacune de leurs intersections, un clou avait été planté dans la chair exsangue jusqu'à l'os. Peut-être qu'à une époque, ils les avaient braillés, mais les années les avaient ternis. Il possédait néanmoins une certaine élégance, rehaussée par le port de tête du démon qui donnait l'impression de contempler le monde avec condescendance et lassitude. Quels que soient les tourments qu'il avait prévus pour ses dernières victimes, sa connaissance de la douleur et de ce mécanisme était telle qu'à côté de lui, les inquisiteurs faisaient figure de petites brutes de bas étage. Il ne ferait qu'empirer de manière exponentielle si l'une d'elles s'avisait de l'appeler Pinhead en sa présence. Un surnom irrévérencieux dont l'origine s'était perdue depuis longtemps. Quant au reste de son apparence, il correspondait à peu près aux représentations des gravures sur bois et des eaux-fortes trouvées dans les traités de démonologie depuis des millénaires. Des vêtements sacerdotaux noirs,
dont l'ourlet frôlait le sol. Des parties du corps où la chair écorchée laissait voir des muscles où perlait le sang. La peau, enfin, fermement entrelacée avec le tissu de son habit. L'âme damnée qui se cachait derrière ce masque de souffrance appartenait-elle à un seul homme, à l'incroyable longévité? Ou l'ordre de l'entaille transférait-il clous et cicatrices à une autre âme après avoir achevé son œuvre de tentation sur le présent occupant? On n'avait pas fini d'en débattre. L'état du démon qui se présentait devant eux ne permettait pas de privilégier une hypothèse. Il ressemblait à une créature ayant vécu trop longtemps, les yeux cernés, la démarche assurée mais lente. Pourtant, à la star de son tablier de boucher en côte de maille, les outils qui pendaient à sa ceinture, une scie à amputation, un trépan, un petit ciseau et trois seringues argentées, étaient poisseux de sang. Confirmation qu'en dépit de sa lassitude, il continuait à mettre la main à la pâte. Il n'était pas venu seul. Des milliers d'énormes mouches d'un bleu foncé voltaient autour de sa taille, se posant sur ses outils afin de prélever leur ration de chair humaine. Elles étaient 4 ou 5 fois plus grosses que leurs homologues terrestres, et leur bourdonnement animé résonnait dans tout le mausolée. Il s'arrêta, regardant Ragoski avec ce qui ressemblait à de la curiosité.
« Joseph Ragoski, dit le cénobite, que ta souffrance m'a été douce. Mais tu es mort trop tôt. Ta présence me remplit d'aise. »
Ragoski se crispa.
« Je ne me laisserai pas faire, démon.
Je n'ai aucun besoin de piller ton esprit une seconde fois, répondit-il, se tournant vers les 5 magiciens qui frissonnaient. « Je suis là pour eux, davantage dans un souci d'exhaustivité qu'animé par l'espoir d'une révélation. La magie des hommes n'a plus de secret pour moi. J'en ai exploré tous les aspects et je ne suis que très rarement tombé sur un penseur réellement original. Si, comme l'a dit Whitehead, la philosophie n'est qu'une suite de notes de bas de page aux écrits de Platon, alors la magie n'est qu'une suite de notes de bas de page à 12 grands textes, des textes qui sont aujourd'hui en ma possession. »
Tandis que le démon parlait, Lily Safro semblait avoir du mal à respirer. Elle se mit à fouiller frénétiquement dans son sac. « Mes pilules! Oh mon Dieu! Où sont mes pilules ?» Dans son agitation, elle lâcha une anse de son sac dont le contenu se répandit sur le sol. Elle s'agenouilla, indifférente à tout le reste, et récupéra son flacon. Elle fourra ensuite dans sa bouche plusieurs gros comprimés qu'elle mâcha et avala comme des bonbons. Toujours à terre, les mains serrées contre sa poitrine, elle inspira à fond. Ignorant cet accès de panique, Felixson prit la parole.
« Je possède 4 coffres, dit-il au démon. J'ai noté leur emplacement pour vous, ainsi que leur code. Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, je peux m'en charger. À moins que vous préfériez m'accompagner. C'est une grande maison, elle vous plairait. Elle m'a coûté 18 millions de dollars. Elle est à vous. Prenez-la, vous et vos frères. »«
Mes frères, » releva le cénobite.
« Je vous demande pardon. Votre ordre accueille également des sœurs, j'oubliais. En tout cas, la somme des savoirs que j'y tiens est largement suffisante pour vous permettre de partager. Vous avez dit que vous aviez déjà réuni tous les textes magiques. Je sais, mais je possède quelques précieuses premières éditions, pratiquement tout en parfait état, ou presque. » Avant que le démon ait eu le temps de répondre, Eadat se manifesta.
« Monseigneur, ou est-ce votre grâce, votre sainteté? Comment doit-on s'adresser à vous ?»«
Maître. »
« Comme un chien ? Bien sûr, » renchérit Felixson, voulant désespérément contenter le démon. « S'il dit que nous sommes des chiens, alors nous sommes des chiens !»«
Bien dit, » approuva le démon. « Mais les actes sont plus éloquents que les paroles. À 4 pattes, chien !»
Felixson attendit un moment, espérant qu'il ne s'agissait que d'une remarque désinvolte.
« J'ai dit, à 4 pattes !» répéta le cénobite d'un ton menaçant.
Felixson commença à s'agenouiller. Le démon poursuivit.
« Et nu. Les chiens vont nus, bien sûr. »
« Oh, oui, où avais-je la tête ? Nue ?» Felixson entreprit de se déshabiller.
« Et toi, Elisabeth Kotlov ?» ajouta le démon, pointant la magicienne de son doigt pâle. « Toi, tu seras sa chienne, nue également, et à 4 pattes. »
Sans avoir besoin de davantage d'encouragement, elle se mit à déboutonner son chemisier, mais il l'interrompit.
« Attends, » dit-il,
et il marcha vers elle, les mouches dérangées dans leur repas s'élevant autour de lui. Elisabeth eut un mouvement de recul. Mais le démon se contenta de tendre le bras et de poser la main sur le bas de son ventre.
« Combien d'avortements as-tu subi, femme ? J'en compte 11.
« C'est juste, » bafouilla-t-elle.
« La plupart des utérus ne survivraient pas à une telle cruauté. »
Il serra le poing et Elisabeth laissa échapper un petit allaitement.
« Mais j'ai le pouvoir de redonner à cet utérus que tu as tant maltraité la capacité de remplir enfin le rôle qui est le sien, même à ton âge avancé. »
« Non, » protesta Elisabeth, plus incrédule que dans le déni, « vous ne feriez pas ça. »«
L'enfant sera bientôt parmi nous. »
Élisabeth resta sans voix, se contentant de fixer le démon du regard, comme si elle espérait qu'il la prenne en pitié.
« Maintenant, sois une bonne chienne et mets-toi à quatre pattes. »«
Puis-je dire quelque chose ?» intervint Poltache.
« Tu peux essayer. »«
Je pourrais vous être utile. Mon cercle d'influence s'étend jusqu'à Washington. »«
Que m'offres-tu ? » ?»«
Parmi les gens qui occupent de hautes charges, nombreux sont ceux qui me doivent leur poste. Un seul coup de téléphone et ils seront à votre service. Ce n'est pas un pouvoir magique, je le reconnais, mais vous semblez déjà avoir tout ce qu'il vous faut dans ce domaine. »«
Que demandes-tu en retour ?»
Ma vie, rien de plus. Vous n'aurez alors qu'à me communiquer la liste des noms à Washington que vous voulez avoir dans votre poche et je ferai le nécessaire. »
Le cénobite ne répondit pas. Distrait par la vision de Felixson, debout en sous-vêtements, Élisabeth à côté de lui préservant toujours sa pudeur.
« Nu, j'ai dit !» leur rappela sèchement le démon. « Tous les deux. Regarde un peu ton ventre, Élisabeth, comme il gonfle. Et ses mamelles, elles m'ont l'air moins fatiguées tout à coup. Qu'en dis-tu ? »
Il tira sur les vestiges de son chemisier et sur son soutien-gorge en dessous. Les poches asséchées de ses seins redevenaient plus pleines à vue d'œil.
« Ça devrait aller. Un dernier enfant, et celui-là, pas question de le faire passer. »«
Que pensez-vous de mon offre ?» insista Poltache, luttant pour obtenir l'attention du démon. Mais avant qu'il eût le temps de répondre, Eadat intervint. « Il ment, dit-il. Il est plus en 10 heures de bonne aventure qu'un véritable conseiller. »« La ferme, Eadat !» s'emporta Poltache. Mais Eadat continua sur sa lancée. « Tout le monde sait pertinemment que Washington préfère cette femme, Sidi Racco !»«
Ah oui, j'ai ses réminiscences, » fit le démon se tapotant la tempe.
« Et vous communiquez tout ce savoir à votre ordre, n'est-ce pas ?» s'enquit Eadat.
« À mon ordre ?»«
Bien sûr, ses membres
ne sont pas avec moi. »
Eadat blêmit, comprenant enfin.
« Vous agissez seul. »
La révélation d'Eadat fut interrompue par un gémissement d'Elisabeth Kotlove, qui se tenait à présent à quatre pattes à côté de l'autre chien du cénobite, Théodore Felixson. Son ventre était rond, sous l'influence du démon, du lait commençait déjà à goûter au bout de ses seins entièrement développés.
« Pas de gaspillage !» lança le cénobite à Felixson. « Baisse-toi et lèche !»
Alors que Felixson s'exécutait avec empressement, Poltache, qui avait apparemment perdu toute foi en son offre, se précipita vers la porte. Il ne se trouvait qu'à 2 enjambées du seuil, quand le cénobite jeta un coup d'œil en direction du passage par lequel il avait fait son entrée. Un serpent d'argent jaillit depuis l'autre côté du mur, traversa la pièce et attrapa Poltache par la nuque. Une fraction de seconde plus tard, 3 chaînes supplémentaires rejoignirent la première, avec, à leur extrémité, des crochets assez gros pour pêcher le requin. Elles s'enroulèrent autour de Poltache, au niveau du cou, de la poitrine et de la taille. Il hurla de douleur. Le prêtre de l'enfer écouta avec l'attention d'un connaisseur.
« Strident et pauvre, j'espérais mieux de la part de quelqu'un qui a résisté aussi longtemps. »
Les chaînes fendirent l'air dans 3 directions différentes, découpant Poltache en 3 parties en un clin d'œil. Pendant un moment, le magicien resta figé sur place, apparemment médusé. Puis sa tête roula de son cou et s'écrasa sur le sol du mausolée avec un bruit écœurant. Quelques secondes plus tard, son corps suivit, répandant ses intestins fumants et son estomac, y compris leur contenu à moitié digéré. Le démon leva le nez et huma l'arôme dans l'air.
« Déjà mieux !»
Enfin, sur un geste discret du cénobite, les chaînes qui avaient mis un terme à la vie de Poltache traversèrent la salle en ondulant jusqu'à la porte où elles s'enroulèrent autour de la poignée. Une fois la porte close, elles dressèrent leur tête crochue telle une trinité de cobras prête à mordre, décourageant toute tentative de fuite.